Chapitre 26. Il y a une chose dont Cicéron se vantait et que les rigides Romains lui reprochaient toujours, c'était d'avoir, lors de la conjuration de Catilina, fait mettre à mort des citoyens, particulièrement Lentulus et Cethégus, quoique la loi ne permît de condamner un citoyen qu'à l'exil. Il fallait accuser Cicéron. Mais Cicéron, sénateur, ne pouvait être accusé que par un tribun du peuple. Et l'on ne pouvait être tribun du peuple que si l'on était du peuple. Or Claudius était non seulement noble, mais encore patricien. On employa un moyen qui leva cette difficulté. Nous avons parlé de l'intempérance de langue de Cicéron. Un jour, il eut l'idée de prendre la défense d'Antonius, son ancien collègue, contre Pompée et César, et il attaqua ce jour-là Pompée et César, comme il attaquait, c'est-à-dire cruellement. 3 heures après cette sortie, César et Pompée firent rendre le plébiscite qui autorisait l'adoption de Claudius par Fonteius, obscur plébéien. À partir de ce moment, il n'y avait plus de doute, Claudius serait nommé tribun du peuple. 6 mois auparavant, Cicéron écrivait à Atticus. J'ai eu la visite de Cornelius. Cornelius Balbus, bien entendu, l'homme de confiance. Il m'a garanti que César prendrait conseil de moi en toute chose. Or, voici pour moi la fin de tout ceci. Union étroite avec Pompée et au besoin avec César. Plus d'ennemis qui ne reviennent à moi. Vieillesse tranquille. Pauvre Cicéron. Mais il apprend que Claudius sollicite le tribunal, que César est pour quelque chose dans son adoption par Fontellus. Voilà ce qu'il écrit à Atticus cette grande nouvelle dans sa lettre datée des Trois Tavernes, avril 695. Voyez quelle rencontre! Je m'en allais tranquillement d'Antium par la voie Appia et j'étais arrivé aux Trois Tavernes. C'était le jour même de la fête de Cérès. Je vois devant moi mon cher Curion venant de Rome. Ne savez-vous rien de nouveau? Me demanda Curion. Rien, lui dis-je. Claudius sollicite le tribunal. Qu'en dites-vous? Il est très grand ennemi de César et veut, dit-on, faire casser tous les actes de César. Depuis un an déjà, César n'était plus consul. Et que dit César? César prétend qu'il n'est pour rien dans l'adoption de Claudius. Puis Cicéron passe à un autre sujet. Mais en juillet, la chose a déjà changé. C'est de Rome qu'il date sa lettre. C'est toujours à Atticus qu'il écrit. En attendant, ce cher Claudius ne cesse de me menacer et se déclare ouvertement mon ennemi. L'orage est sur ma tête. Au premier coup, accourez. Cependant, Cicéron ne peut croire au danger. Pompée lui donne sa parole que Claudius n'entreprendra rien contre lui. César, qui s'est fait donner pour 5 ans le gouvernement des Gaules, lui offre une lieutenance dans son armée. César me demande toujours pour lieutenant, dit Cicéron. Ce serait une sauvegarde plus honorable, mais je n'en veux pas. Que veux-je donc? Tenter la lutte? Oui, plutôt. Et, en effet, il tentera la lutte. Mais en août, les choses ont pris toute leur gravité et le danger se dessine. En attendant, mon cher Atticus, le frère de notre déesse aux yeux de bœuf n'y va point à demi dans ses menaces contre moi. Il nie ses projets à Sampsiceramus, c'est un des surnoms que Cicéron donne à Pompée, mais il s'en targue, il s'en vante à tout le monde. Vous m'aimez tendrement, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, si vous dormez, vite hors du lit, si vous êtes levé, allons en marche, si vous marchez, doublez le pas, si vous courez, prenez des ailes, il faut que vous soyez à Rome pour les comices, ou si la chose est impossible, au plus tard pour le moment où l'on proclamera le vote. 8 mois après, tout est accompli et Cicéron écrit toujours au même Atticus « An de Rome 696, vie bonne, péri des Brutiens, 3 avril. » Fasse le ciel, mon cher Atticus, que j'ai à vous remercier un jour de m'avoir forcé à vivre. Mais jusqu'ici, j'ai cruellement à me repentir de vous avoir écouté. Je vous en conjure, venez en hâte me rejoindre à Vibone, où m'a conduit un changement de direction indispensable. Venez, nous réglerons ensemble mon itinéraire et ma retraite. Si vous ne venez pas, j'en serai surpris, mais vous viendrez, j'en suis sûr. Que s'est-il donc passé? Nous allons le dire. Claudius avait été nommé tribun vers la fin de l'an de Rome 695. Pison et Gabinius étaient consuls. Il commença par se les attacher en faisant donner à Pison la Macédoine, à Gabinius la Syrie. Le seul appui que devait dès lors trouver Cicéron était près de Crassus, de Pompée ou de César. Pour Crassus, il n'y avait pas de danger. Il détestait Cicéron, qui, à tout propos, se moquait de lui, l'appelant le chauve ou le millionnaire, Calvus ou Dives. Pour Pompée, amoureux de 50 ans, il était tout entier au charme de sa jeune femme Julie. Et, comme nous l'avons vu, aux terreurs de Cicéron, il se contentait de répondre « Ne craignez rien, je réponds de tout. » Quant à César, quoiqu'il n'y eût point, depuis l'affaire de Catilina, une amitié bien vive entre lui et Cicéron, il estimait trop le talent de l'orateur pour lui refuser sa protection. D'ailleurs, César, protégeant Cicéron, s'acquittait envers Cicéron, qui avait protégé César. César avait donc, comme nous l'avons vu, offert à Cicéron une lieutenance dans son armée. Cicéron avait été sur le point d'accepter. Claudius, sentant que son ennemi allait lui échapper, courut chez Pompée. « Pourquoi Cicéron voudrait-il quitter Rome ? » demanda-t-il. « Est-ce qu'il croit que je lui en veux ? Pas le moins du monde. À sa femme, Terentia tout au plus. Mais contre lui, grand Dieu, je n'ai ni haine ni colère. » Pompée répéta la chose à Cicéron et ajouta sa garantie personnelle. Cicéron se crut sauvé et remercia César de sa lieutenance. César haussa les épaules. Et, en effet, un beau matin, Claudius accusa Cicéron. Cicéron avait fait mettre à mort, sans jugement, Lentulus et Cethégus. Cicéron, accusé par Claudius, n'osa en appeler à César, qui l'avait prévenu. Il courut chez Pompée, qui lui avait toujours dit qu'il n'avait rien à craindre. Pompée coulait doucement sa lune de miel dans sa villa du Mont Albin. On lui annonça la visite de Cicéron. Pompée eût été fort embarrassé à sa vue. Il se sauva par une porte dérobée. On montra toute la maison à Cicéron pour lui prouver que Pompée n'y était pas. Il comprit qu'il était perdu. Il rentra dans Rome, prit la robe de deuil, laissa croître sa barbe et ses cheveux et parcourut la ville en suppliant le peuple. De son côté, Claudius, entouré de ses partisans, se portait chaque jour à la rencontre de Cicéron, le raillant sur son changement de robe, tandis que ses amis mêlaient aux menaces de Claudius des pierres et de la boue. Les chevaliers, cependant, étaient restés fidèles à leur ancien chef. L'ordre tout entier avait pris le deuil en même temps que lui. Plus de 15 000 jeunes gens le suivaient, les cheveux en désordre et sollicitant le peuple. Le Sénat fit plus, il décréta le deuil public et ordonna à tout citoyen romain de revêtir la robe noire. Mais Claudius entoura le Sénat avec ses hommes. Les sénateurs, alors, s'élancèrent sous le vestibule en déchirant leurs toges et en jetant de grands cris. Malheureusement, ni ces cris poussés, ni ces toges déchirées n'émurent le peuple. Dès lors, c'était une lutte à soutenir, un combat à vider par le fer. « Reste, lui disait Lucullus, et je te réponds du succès. »« Pars, lui disait Caton, et le peuple, rassasié de la fureur et des violences de Claudius, te regrettera bientôt. » Cicéron préféra le conseil de Caton à celui de Lucullus. Il avait le courage civil, nullement le courage militaire. Au milieu d'un tumulte effroyable, il prit une statue de Minerve qu'il gardait chez lui avec une vénération toute particulière et la porta au Capitole où il la consacra avec cette inscription « À Minerve, conservatrice de Rome ». Puis, ses amis lui ayant fait une escorte, il sortit de Rome vers le milieu de la nuit et traversa à pied la Lucanie. On peut suivre son itinéraire par ses lettres. Le 3 avril, il écrit à Atticus du pays des Brutiens. Le 8 avril, il écrit au même des côtes de la Lucanie. Vers le 12, au même toujours, en allant à Brinde. Le 18 du même mois, au même encore, du pays de Tarente. Le 30, à sa femme, à son fils et à sa fille, de Brinde. Et enfin, le 29 mai, à Atticus de Thessalonique. À peine sa fuite fut-elle connue que Claudius obtint contre lui un décret d'exil et publia un édit qui défendait à tout citoyen de lui donner l'eau et le feu ou de le recevoir sous son toit, et à 500 miles des frontières de l'Italie. 12 ans s'étaient à peine écoulés depuis qu'il s'écriait orgueilleusement « Les armes cèdent à la toge et les lauriers des combats au trophée de la parole. » Et cependant, vainqueur de Catilina, ne maudis pas les dieux pour l'exil. Ton pire malheur ne sera pas l'exil, ton pire ennemi ne sera pas Claudius.